C'est un souvenir douloureux, Philibert. Donc, comme toutes les douleurs, elles ne cicatrisent pas vraiment, mais on essaie de les enfouir.
Jean-François Alain, c'est lui qui a écrit OSS 117. Il nous parle là d'un autre film qu'il a écrit, Les aventures de Philibert, Capitaine Puceau. Ça ne vous dit rien ? C'est normal. Cette comédie délirante est un bide retentissant à sa sortie en 2011. Tombé dans l'oubli, mais culte pour une poignée de cinéphiles, ce pastiche de film de KPDP hante encore celles et ceux qui l'ont fabriqué. Les aventures de Philibert, Capitaine Puceau, le chef-d'œuvre inconnu des créateurs d'OSS 117. Bonjour, je suis Jérôme Lachasse et j'ai rencontré certains de celles et ceux qui l'ont fabriqué. Jean-François Alain, mais aussi sa co-scénariste Karine Angéli, le réalisateur Sylvain Fusé et le producteur Nicolas Altmeyer. Ce producteur a déjà sorti OSS 117, immense succès et un film culte. L'histoire des aventures de Philibert commence avec lui.
Ça vient d'une après-midi à la FNAC, où je me baladais dans les rayons des DVD. Et puis je vois ces vieux films de KPDP avec Errol Flynn, avec Jean Marais, avec Burt Lancaster. Et tout d'un coup, j'ai cette idée qu'on pouvait faire une comédie de détournement, comme on l'avait fait avec OSS 117, autour du KPDP. C'est très codé, il y a ces costumes avec ces collants qui sont quand même très amusants. Il y a des vrais méchants, avec des têtes de méchants, avec des attitudes de méchants. Et donc j'achète plusieurs de ces DVD, et puis j'appelle Jean-François Alain, et on se voit dans un café, et je lui pose les DVD sur la table en lui disant « Est-ce que ça t'amuserait pas qu'après OSS, on détourne le KPDP et tout ce genre-là »
Jean-François Alain accepte dans la seconde. Il se met au travail aussitôt avec Karine Angéli, la scénariste de Brise de Nice, une équipe de choc prête à pulvériser le box-office. Jean-François Alain et Karine Angéli ont carte blanche pour imaginer ce film. L'histoire est simple. À la mort de son prétendu père, un roturier, producteur d'artichauts, Philibert, découvre sa véritable famille. Son père est un comte assassiné. Philibert va chercher à se venger. Ce héros, que Jean-François Alain et Karine Angéli ont imaginé, est Puceau.
Il vient d'une espèce de mélange, de synthèse de tous les héros, c'est-à-dire un peu naïf, rempli d'idéal, avec un idéal qui l'aveugle. Moi, ça me faisait beaucoup rire qu'il soit vierge et qu'il garde sa virginité pour après.
Et il y avait ce truc de Puceau dès le départ, un personnage comique. Bon, ben voilà, si on en fait un Puceau un peu con-con, c'est bon pour nous, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que les frères Altmeyer nous ont vraiment laissé, ils nous ont accompagnés là-dessus, ils nous ont laissé carte blanche et ils nous ont suivis, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, c'était quand même un truc assez assez audacieux, pour pas dire un peu casse-gueule, quoi.
Pendant des mois, Jean-François Alain et Karine Angéli regardent des films de KPDP pour s'imprégner au maximum. Le Capitaine, le Bossu, Robin des Bois, Scaramouche, Les Trois Mousquetaires, Ivan Noé.
Oh, on a bouffé du film de KPDP, mais on s'est bien marré.
Ces films de KPDP, je les connaissais pas vraiment. Donc j'ai regardé Le Bossu d'André Hunebelle, j'ai regardé beaucoup de films avec Jean Marais, parce que Jean Marais faisait beaucoup de ce genre de films. Et ouais, ben moi, je ne les ai pas trouvés bons, ces films-là.
L'ambition est de détourner le genre sans tomber dans la parodie. Les scénaristes s'amusent, ils ajoutent exprès des faux raccords, ils s'amusent aussi avec les sous-entendus homosexuels que l'on peut retrouver dans ce genre de récit de KPDP, notamment avec ces personnages qui portent des collants très moulants, laissant apparaître la forme de leur pénis. Dans une autre scène, ils imaginent un personnage mort qui cligne des yeux comme un mauvais figurant.
Alors on avait déjà remarqué une fois dans un film de Hunebelle qu'à un moment donné, il y a une scène de foule. Et il y a une des paysannes a des lunettes de soleil, mais vraiment années 50, avec œil de chat, tout ça. Donc ça nous avait fait bien marrer. Ça faisait partie justement du projet qu'on ait des faux raccords. Après, le père qui cligne des yeux, c'était pas inscrit dans le scénario. Cela dit, connaissant Sylvain, je pense qu'il a dû justement garder cette prise-là parce que ça le faisait marrer d'avoir le cadavre aux yeux qui clignotent, quoi.
C'était vraiment de s'amuser avec cet univers cinématographique, s'amuser avec des cavalcades, avec des duels, s'amuser avec des duels à vitesse rapide comme il y en avait dans les années 50, s'amuser à ce qu'il y ait toujours, quand il saute sur son cheval, il y a toujours une bûche ou un rocher qui est bien positionné pour qu'il puisse, hop, sauter directement sur son cheval, s'amuser de ses costumes avec des collants qui laissaient apparaître leur virilité fortement.
Je crois que le parti pris de Philibert de base, c'était vraiment aller dans le pastiche.
Sylvain Fuset, le réalisateur.
On est dans l'hommage, on n'est pas du tout dans la parodie. Donc on joue pas, on se moque pas du genre, on se moque pas des situations. Et l'idée, c'était d'être toujours sur le entre l'hommage premier degré et un 275e degré, en jouant trop les codes au premier degré. C'est vrai que j'adore ça, moi, tout ce qui est codes, règles, pour pouvoir après jouer avec et les détourner ou les pousser. Ou...
Sylvain Fuset, figure de Groland, est contacté pour réaliser Philibert, à la suggestion de Jean-François Alain. Une idée validée par la production, puisque quelques années auparavant, c'est Jean-François Alain qui déjà avait eu l'idée de faire appel à Michel Hazanavicius pour OSS 117 avec le succès que l'on connaît. Évidemment, c'est grâce au succès d'OSS que ce film Philibert, qui est très atypique, peut se monter sans trop de difficultés. D'ailleurs, ce film, au moment où il se crée, il se présente vraiment comme un peu le fer de lance d'une nouvelle manière d'imaginer la comédie en France.
On sortait de OSS, on sortait de Brice. Il y avait tout un univers qu'on avait un peu créé et de comédie qui sortait un peu du cadre, la comédie française habituelle. Et donc, nos partenaires habituels de ces films-là nous ont fait confiance. Gaumont, avec qui on avait fait deux OSS, y est allé La Fleur au Fusil. M6, pareil, avec qui on avait fait Brice et OSS, nous a fait confiance tout de suite. Canal+, enfin bref, le film s'est monté assez facilement.
Pour incarner Philibert, Nicolas Altmaier et son frère Eric pensent rapidement à Jocelyn Quivrin, alors star montante du cinéma français, vu notamment dans Incognito et 99 francs.
Jocelyn est arrivé et je me souviens vraiment, il était piaffé d'impatience à l'idée de jouer ce rôle. Et c'est vrai que je peux comprendre tout à fait que pour un comédien, jouer cette espèce d'idiot total, complètement pur, et puis tout ce que ça implique, c'est-à-dire les cascades, les combats. C'était un rôle hyper physique, donc il y avait une gamme tellement large à jouer qu'en effet, il était ravi.
Les frères Altmaier désirent associer Jocelyn Quivrin à Jean Dujardin, avec qui il venait de tourner 99 francs, mais celui-ci décline l'invitation.
Jean, l'idée lui plaisait, pourquoi pas, de retravailler avec Jean-François et avec nous, ça avait du sens. Et puis, il a perdu l'envie au fur et à mesure. Je pense que le fait d'avoir joué en costume de Robin des Bois dans OSS 2 a beaucoup participé à sa perte d'envie. Puis, j'ai l'impression qu'il avait envie de cette langue, ces dialogues et ce phrasé très brillant mais très, très unique de Jean-François Alain pour OSS, pour le personnage d'OSS et pas pour Philibert.
C'est donc Alexandre Astier qui va récupérer le rôle promis à Dujardin, le rôle du méchant. Est aussi associé au casting au même moment Manu Payet dans le rôle de l'acolyte qui va suivre un peu partout Philibert. Le projet avance rapidement, mais le 15 novembre 2009... Jocelyn Quivrin meurt brutalement dans un accident de voiture. Sylvain Fuset s'en souvient.
Le jour où on devait faire la première lecture tous les quatre, Jocelyn, Alexandre et Manu, c'est ce matin-là où j'ai découvert sur Internet l'accident de Jocelyn. Ouais.
En tant que producteur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avait deux films qu'on devait faire ensemble? Son premier film en tant que réalisateur, qu'on a mis beaucoup plus de temps à faire et à accepter l'idée de faire, qui est devenu Maestro. Philibert, on a décidé de poursuivre, de continuer à construire ce film. Et voilà, et on a proposé le rôle à Jérémy Régnier. Et c'est finalement Alexandre Astier qui a joué le méchant.
Pour sa compagne de l'époque, Alice, pour leur enfant, très douloureux, très difficile, improbable, inimaginable. Et puis après, ce film reprend avec Alice Taglioni qui a dit « Moi, je pense qu'il faut faire le film ». Voilà. Alice n'était pas impliquée dans le film, mais a dit « Je pense qu'il faut faire le film ». Et je me pose toujours la question aujourd'hui de savoir si on a eu raison de le faire ou de ne pas le faire.
Jérémy Régnier remplace donc Jocelyn Quivrin. La préparation est intense pour le comédien belge. Il s'entraîne 2 mois, escrime, trapèze, équitation. Il redouble d'efforts pour faire ses cascades lui-même. Il regarde même des films avec Errol Flynn et Jean Marais sans le son pour se concentrer sur leur posture.
Quand j'ai rencontré Jérémy, il avait la fraîcheur du personnage et puis physiquement c'était Jean Marais de la belle époque quoi. Bon, il s'est posé des questions Jérémy. Il avait fait de la comédie, il avait fait Dickeneck, les choses comme ça, mais je pense qu'il se sentait pas légitime dans un rôle comme ça et en fait il avait tort. Et je crois qu'à l'inverse, Manu avait peur que Jérémy le déconsidère parce qu'il venait de la comédie.
Le tournage débute en juillet 2010 en République tchèque. dans les immenses studios de Barrandov, où a été notamment tournée Mission Impossible. Un lieu choisi pour réduire le budget à un niveau raisonnable. Jean-François Alain passe quelques jours sur le tournage. En découvrant les premières images tournées, les rushs, il commence à perdre la foi.
Je suis allé à Prague 2 fois sur le tournage et ça m'a occasionné une dispute conjugale, voilà, il faut le dire, puisque j'ai vu des rushs et les rushs m'ont mis dans la tête dès le départ que ça ne fonctionnerait pas. Je ne l'ai pas dit, je regrette de ne pas l'avoir dit. Voilà, ça ne va pas être bien, c'était beau, c'était bien joué, c'est machin, mais voilà, il y avait un problème de rythme. Il y a le montage après, il y a les rushs, et puis après, peut-être, c'était peut-être subjectif, peut-être que c'était un ressenti plus global que j'avais et qui n'était pas lié aux rushs, mais j'ai vu ça, j'ai eu cette certitude, et je me souviens très bien d'un coup de fil que j'ai passé à Karine, peut-être 1 mois et demi avant la sortie du film. Je lui ai dit, tu sais, il est évident que le film ne va pas marcher. Ça va être un bide maintenant. Il reste à savoir quelle va être l'ampleur de ce bide. Et j'espère qu'elle ne sera pas énorme. Voilà.
Je sens aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, je suis fondamentalement optimiste. Je me dis peut-être que ça marchera quand même. Je n'arrive pas. Ce n'est pas dans mon caractère de me dire on va au casse-pipe. Mais on l'a senti en tout cas.
À l'approche de la sortie, leurs craintes se précisent. Les premiers retours de la presse sont assez mauvais.
Toute l'aventure a été absolument formidable jusqu'à la première projection de presse où c'est là où j'ai compris qu'on passait complètement à côté. Et je me souviens très bien, j'étais sur une piste de ski lorsque l'attaché de presse m'a appelé pour me donner le compte-rendu de la première conférence de presse. Et là, c'était une catastrophe. Et j'ai vraiment compris que ça allait pas marcher. Tout d'un coup, j'ai eu vraiment la clairvoyance de tout ce que je n'avais pas vu avant. C'est terrible parce que tous les signes convergent vers le fait que ça n'accroche pas. Les avant-premières en province ne se remplissent pas. Les articles sont mauvais.
La plupart des mauvais retours étaient sur le rythme du film. Je savais que, vu le temps de tournage qu'on avait, j'aurais pas le temps de découper assez certaines choses, et notamment tout ce qui était action, cascade et tout ça. Les principaux regrets que je peux avoir sur Philibert, c'est ça. C'est ne pas avoir eu le matériel final de ce que j'aurais voulu avoir pour rythmer plus le film.
Le 6 avril 2011, jour de sortie, la sentence est irrévocable. 137 spectateurs à la séance de 14h dans les cinémas situés à Paris et en proche banlieue. Malgré le soin apporté au film à ce détournement de film hollywoodien, le public boude complètement la proposition qui joue dans des salles vides.
Ça a été un échec terrible, à tel point que c'est probablement la première fois et la seule qu'on a annulé la soirée chiffre. Tellement c'était déprimant. Les chiffres à 14h étaient tels que le distributeur François Clair m'a appelé en disant « Écoute, c'est peut-être pas nécessaire qu'on fasse une soirée de deuil tous ensemble et je te propose qu'on annule la soirée chiffres. » Et je l'ai remercié d'en avoir l'initiative parce que j'étais complètement déprimé. D'ailleurs, je me suis terré chez moi. J'ai même pas le courage d'aller prendre un verre avec Sylvain et Jean-François.
On est allé dans un restaurant avec Manu Payet, sa compagne de l'époque, qui est cinéaste, hein, Géraldine. Et il y avait Karine et moi. Karine a fondu en larmes et a quitté la table en disant « Je vous vois tous comme ça. » Et c'est là que je n'ai pas vu Karine pendant 2 ans. Donc voilà ce qu'on appelle un peu une journée de cauchemar.
Voilà, on est quand même allé dîner au restaurant, mais tout le monde en tirait tous des tronches. C'était lugubre. On aurait dit, vous savez, les déjeuners après un enterrement, quoi. C'était vraiment ça. Les seuls moments que j'ai revécu similaires à ça, c'était justement après un enterrement, quoi.
À un moment, on est sorti avec Manu pour une clope. Et dans le silence, la lourdeur de la chose, et on s'est regardé et on a explosé de rire. Parce que voilà, c'était tellement too much.
Dans les jours qui suivent, Philibert quitte rapidement les salles obscures. En tout, au terme de son exploitation, le film ne dépassera pas les 60 000 entrées.
C'est intéressant comme l'échec appelle l'échec. La spirale de l'échec est fascinante. C'est-à-dire que dès le jeudi, les équipes de Gaumont se battaient pour maintenir le film, même pas pour le mercredi d'après, déjà pour le lundi. Parce que maintenant, avec le numérique, avant il y avait des bobines dans les salles, c'était lourd. Maintenant avec le numérique, les multiplexes, les salles peuvent nous mettre... pas forcément nous dégager, mais on n'est plus qu'à 16 heures dans la salle 4 et plus toute la journée dans la salle 1. Donc ils se battaient déjà pour qu'on maintienne le truc, parce que dès le jeudi déjà, on était déclassés. Et après, la semaine d'après, il n'y a plus d'exposition et là c'est fini.
Pour employer un mot qui était aussi une valeur qu'on voulait avoir dans le film, qui est le panache, je pense que c'est notre bide qui a le plus de panache. C'est vraiment parce que c'est tombé dans un trou.
Ça a été tellement difficile pour moi que j'ai pas écrit de film pendant des années derrière. Parce que c'était, alors c'était mon premier échec au cinéma. Alors avant, je n'avais pas eu que de succès, mais j'avais eu des, oui, des succès quand même. Et puis d'autres films qui avaient marché moyennement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un bide colossal qui inaugure les bides qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans. C'est-à-dire que ce sont des films qui, où il n'y a pas d'entrée. Il n'y avait pas ça avant. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un peu d'entrée. Et là, il n'y a pas d'entrée du tout. Mais du tout. Rien. 58 000, c'est ça. C'est-à-dire rien. Alors, il y a des gens qui font 58 000 aujourd'hui. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un que j'apprécie qui va faire 58 000. Mais aujourd'hui, ça paraît moins surprenant. C'est devenu beaucoup plus violent aujourd'hui.
Avec le recul, un constat s'impose. Le grand public n'avait plus les codes du film de KPDP. Pourtant, Jean-François Alain, comme Sylvain Fuset, comme Karine Angély, comme Nicolas Attemayor, tous et toutes continuent d'aimer ce film.
C'est pas du tout un film qui a été bâclé. C'est une mayonnaise qui n'a pas pris. Et voilà, c'est le cinéma. Je pense qu'on s'est un peu bercé dans l'illusion que ce qui nous est beaucoup rire, nous, parce que ça faisait des références à des films, ne ferait pas réagir le grand public de la même façon. Jean Marais n'était pas une référence. N'était plus une référence.
Parfois, c'est pas le moment de faire un pastiche d'un genre. Pour faire le pastiche d'un genre et pour qu'il soit compris, il faut que le genre aussi soit bien intégré par les gens. Est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas tapé au mauvais endroit, au mauvais moment ?
En fait, je me suis rendu compte au final qu'on avait trois publics. On avait les vieux, enfin les personnes âgées qui avaient les références de ces films, les Jean Marais, les Mel Curtis et machin, mais qui vont plus au cinéma. On avait les enfants. On s'est rendu compte que les gamins, tous les gamins qu'on a vus, ont chopé le côté Disney, parce que c'est le côté très naïf, très coloré, illuminé, les petites fleurs, la gentille, le méchant, tout ça. Donc les gamins ont aimé le film. Et retrouvés, l'ont vu comme un Shrek ou un truc comme ça. Et les gens en biais. J'avais fait des projos à la fac de Caen, par exemple, dans les étudiants, qui avaient chopé tout ce qu'on avait voulu faire dedans, halluciné de ne pas l'avoir vu à la sortie, qu'il n'avait pas vu passer. Et je pense que c'était ça, notre public.
Chacun a depuis tracé sa route. Sylvain Fuset n'a pas réalisé d'autres films pour le cinéma. Il s'est consacré à la télévision. Jean-François Alain a développé avec succès la série Au service de la France. Karine Angély a continué d'écrire, notamment Toute ressemblance de Michel Denisot. Et les frères Attemayor ont continué de défricher la comédie Made in France en s'associant ensuite avec Franck Gaston Bide. Merci d'avoir écouté cet épisode de Comedy Club, le podcast qui dévoile les coulisses des comédies françaises. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. Pour aller plus loin, une série d'articles inédits est à retrouver sur le site de BFM TV. À bientôt !